Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadra, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Aujourd'hui, je donne la parole à Estelle. Estelle n'exerce pas dans le milieu médical à proprement parler, mais sa formation de juriste en droit médical vous apportera un regard très complet sur notamment la question de la procréation médicalement assistée, qui est son domaine d'expertise. Bonne écoute. Bonjour Estelle.
Bonjour Marielle.
Comment vas-tu?
Bah ça va, je suis très contente d'être là, de pouvoir participer à ton podcast pour, on va dire, un portrait peut-être un petit peu plus différent des autres.
Absolument. Alors, pour mettre un peu de contexte, Estelle, tu m'as envoyé un mail il y a quelques jours en me disant « Je ne fais pas partie du milieu médical stricto sensu, mais j'y ai voulu quand même d'une façon ou d'une autre. Je suis juriste en droit médical et je voudrais apporter ma pierre à l'édifice. Est-ce que mon portrait t'intéresserait ?» Alors moi, j'ai dit « Mais absolument !» Je trouve que c'est hyper intéressant. C'est un exercice qui est un petit peu plus différent, qui est un peu différent pour moi parce que du coup, non pas que je sois extrêmement à l'aise à l'idée d'interviewer des médecins, parce que par exemple c'est pas un métier que j'ai exercé, mais c'est vrai que là on sort un peu de ma zone de confort, on va dire. Mais moi j'ai plein de choses à apprendre. Déjà, je le dis souvent, mais ce podcast est un caprice égocentrique, vraiment. Moi j'ai créé ce podcast pour répondre à ma propre demande, à mon propre besoin, c'est-à-dire apprendre des choses. Et si ça peut aider d'autres personnes, je suis ravie. On va apprendre plein de trucs aujourd'hui. Donc Estelle, bah, écoute, c'est parti pour les présentations, on t'écoute.
Alors moi, je suis maître de conférence, donc j'enseigne à l'université. J'enseigne un peu à tous les niveaux, donc ça peut être la première année de vraiment d'études en droit, comme ça peut être la dernière, c'est-à-dire la cinquième, dans des parcours aussi qui sont différents. Donc ça me permet de voir un petit peu tous les niveaux pour les élèves. Et pour en arriver là, en fait, il faut faire bien sûr les cinq années en droit, hein, sinon ça marche pas. Et après, il faut faire une thèse. Donc moi, je l'ai faite en 5 ans et je l'ai faite un petit peu justement sur ce domaine des innovations un petit peu médicales, sur la dignité de la personne humaine, comment on peut s'en servir en droit. Et donc après, on peut se spécialiser, on va dire, vers des domaines un petit peu plus précis. C'est-à-dire que quand on fait ses études et même quand on fait sa thèse, ça reste encore un petit peu général. Et après, pour nos zones de recherche, puisqu'au final, on est enseignant-chercheur, on enseigne, mais on fait aussi de la recherche, eh bien là, on peut aller un petit peu vers des domaines qui nous intéressent. Parfois des niches, hein, ça peut être très, très spécialisé. Et moi, en ce moment, c'est vraiment tout ce qui est sur le côté de la bioéthique.
D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené vers ce domaine de recherche, justement ?
Bah, à la base, moi, c'était vraiment le droit des personnes et de la famille. Donc, okay. Le droit de la famille, tout ce qui est le droit du couple, le mariage, le pacte, le concubinage, la question des enfants aussi. Et puis, le droit des personnes, c'est vraiment toutes les caractéristiques de la personne. Comment est-ce qu'on l'identifie avec son nom, avec son genre ? Comment est-ce qu'on la protège aussi ? Et donc, forcément, à cheval entre les deux, on a toutes les questions de procréation médicalement assistée. Mmh. Parce que c'est à la fois une question de choix de la personne, de liberté de la personne, c'est son corps qui est engagé. Et puis, c'est aussi une question de famille, hein, puisqu'il va y avoir un enfant, il va être intégré, on va dire, juridiquement aussi dans cette famille, que ce soit dans un couple ou une personne célibataire. Donc, c'est vraiment entre les deux. Et puis, moi, c'est celui qui m'a passionnée parce que c'est celui dans lequel il y a le plus d'innovation. C'est quelque chose qui bouge vraiment régulièrement. Je sais que le droit bouge tout le temps, on va dire. Mes collègues en droit du travail, eux, ça bouge tout le temps aussi. Hein. Chaque année, ils ont quelque chose de nouveau à faire et à revoir. Mais vraiment, le droit de la procréation médicalement assistée, c'est quelque chose où on apprend des nouvelles techniques, des nouveaux processus, on va dire. C'est aussi le droit où on se compare le plus avec l'étranger. Parce que souvent, on va dire, le droit, c'est très propre à un pays, à une culture. Mais quand il y a des innovations qui se passent dans des pays étrangers, bah forcément, ça nous renvoie à ce que nous, on interdit, ce qu'on autorise. Et donc, c'est vraiment là où on peut faire un peu aussi de comparaison, d'ouverture. Et voilà, je me suis lancée là-dedans et bah, je ne regrette pas depuis.
Et puis, la France faisant partie de l'Union européenne, j'imagine qu'il y a encore des enjeux aussi au niveau européen. Ou est-ce que justement, culturellement, on s'inspire des voisins européens ou en tout cas, ça questionne ?
Alors, pour tout ce qui est vraiment droit de la procréation médicalement assistée, ça reste quand même avant tout le choix du pays.
D'accord.
Parce que les sociétés, les pays évoluent quand même différemment, ont des points de vue différents sur ces questions-là. Donc, c'est pas vraiment le meilleur endroit pour essayer de faire des harmonisations, on va dire. Mmh. Il faut que ça reste quand même quelque chose d'accepté par les populations, sinon ça passe pas.
D'accord.
Donc là, il y a quand même une grande marge de manœuvre. Par contre, effectivement, le fait qu'on soit en Europe avec plein de pays autour de nous, bah, bien sûr, on regarde ce qui se fait. Et puis, bah, on se renvoie la balle en disant, bah, OK, ça se fait à l'étranger. Donc, est-ce que ça veut dire que nous, on devrait le faire? C'est là où on commence à se poser des questions et on fait évoluer peut-être les règles dans le domaine.
Toi, ton rôle intervient auprès de patients, de médecins, de laboratoires, de qui? Tout le monde, tous à la fois.
En fait, pas tellement. Enseignant-chercheur, c'est quand même un métier à la base où on est un peu seul. Ça a l'air un peu triste dit comme ça. Mais disons que nous, on peut intervenir avec d'autres personnes. Par exemple, on peut apporter notre expertise lorsque le Parlement va décider de passer une loi. Il peut faire venir effectivement des professeurs pour donner leur avis, pour expliquer quel problème ça pourrait poser ou qu'est-ce qu'il faudrait penser à faire ou des visions différentes. Ça, c'est tout à fait possible. Après, moi, personnellement, je suis en contact plutôt avec des médecins quand j'écris des articles qui sont très très techniques au niveau médical, où je veux être sûre effectivement de rien avoir oublié, de ne pas avoir dit de bêtises, j'ai pas fait d'études de médecine. Quand on rentre dans le détail des termes d'anatomie, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Pour avoir leur avis aussi parfois sur leurs besoins, sur ce qui est difficile pour eux. Et puis, on rencontre aussi beaucoup de médecins dans tout ce qui est comité d'éthique.
Ah oui.
Lorsqu'on a c'est des comités quand même qui sont pluridisciplinaires, donc on a besoin de médecins puisque c'est eux qui sont un peu en première ligne. Mais on a besoin aussi d'autres spécialités, des philosophes, des juristes. Et c'est là aussi où il y a un mélange un petit peu qui se fait à ce moment-là.
Ces comités d'éthique, ils vont répondre à une problématique, à une question donnée, ou est-ce qu'ils vont se porter sur un cas concret? Comment ça se déroule?
C'est davantage sur des problématiques générales. C'est-à-dire, nous, en bioéthique, on sait vraiment qu'il y a des thèmes qui vont poser problème. Donc, la bioéthique, c'est vraiment toutes les questions, on va avoir des sujets sensibles. Et nous, en droit, il va falloir qu'on les traite. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on fasse des règles dessus. Donc, c'est vraiment un petit peu, on va dire, à cheval entre la médecine et le droit. Et en général, le juriste, pour être honnête, c'est un peu l'empêcheur de tourner en rond, hein. C'est celui qu'on n'aime pas. Parce que c'est celui qui est prudent de base. C'est vraiment celui qui, au départ, va dire non, systématiquement, pour prendre le temps de voir ce qui se passe. La médecine, elle est un petit peu plus rapide que nous, en fait, hein, dans le sens où il y a des recherches qui sont lancées, ils font des choses, ils arrivent à faire des choses, et nous, on arrive, et puis on dit, oui, mais alors pas tout de suite. C'est super de savoir le faire, mais on va d'abord voir si c'est intéressant de le proposer vraiment de manière générale, pas juste en tant que recherche. Et puis on va voir si ça ne nous pose pas de problème ensuite juridiquement de l'intégrer. Donc on va commencer par dire non. Ensuite, on va y réfléchir. Et potentiellement après, on va dire oui. Mais donc on est toujours la personne qui dit non au départ, ce qui peut être un peu frustrant.
Donc la médecine, en fait, elle fait des progrès constants et très rapides. Alors après, on regarde tout ça à l'échelle de l'époque dans laquelle on vit, mais c'est vrai que moi, de mes yeux aussi, en 11 ans d'exercice en tant qu'infirmière, j'ai vu des changements incroyables. J'exerçais avec des infirmières, par exemple, qui me disaient, mais moi, à l'époque, les seringues, elles étaient en verre, on les stérilisait. Aujourd'hui, on est sur de l'usage unique. Tu vois, puis des collègues qui ont une soixantaine d'années, donc on n'est pas non plus... ils ont pas 80, 90 ans, hein. Et la médecine, voilà, elle évolue extrêmement vite. Et toi, de ton côté, ton rôle, c'est quoi? C'est de garantir toujours une éthique, de pas tomber dans l'eugénisme. Ça, je pense qu'on va en parler un petit peu après. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, quel est ton rôle de régulation dans tout ça?
Alors, quand il y a une technique médicale, en sachant que les processus de recherche doivent être quand même autorisés, hein, légalement, on ne peut pas faire de recherche sur tout et n'importe quoi. Mais une fois
Ouais,
qu'on
déjà,
sait que la technologie est, on va dire, fiable du côté médical, par exemple, il n'y a pas trop d'effets secondaires, de risques, ou en tout cas, c'est modéré et c'est dans l'ordre du raisonnable, nous, il va falloir qu'on réfléchisse comment est-ce qu'on l'intègre. Je vais prendre un exemple qui est la gestation pour autrui, les mères porteuses. Donc, pour une personne qui ne peut pas porter d'enfant, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de solutions actuellement. Donc, une des solutions qui existent, c'est de faire porter l'enfant en utilisant une fécondation in vitro par une autre personne qui, après, bien sûr, ne fait que porter l'enfant et au bout de 9 mois, remet l'enfant aux parents. Ça, c'est quelque chose donc médicalement qui est assez facile, on va dire, à faire depuis qu'on a la fécondation in vitro. Mais nous, on regarde après si on le met, si on l'autorise, où est-ce que ça nous pose problème. Et typiquement, en France, ça nous a posé problème, et c'est pour ça que c'est toujours pas autorisé, parce que juridiquement, la mère, c'est celle qui accouche. Juridiquement, pour nous, on a besoin de définir la mère, même si dans les faits, voilà, c'est celle qui va aimer, qui va border le soir, qui va raconter des histoires. Nous, c'est plus, on va dire, basique et concret, c'est celle qui accouche. Donc la technique fonctionne pas pour nous, parce que par définition, la femme qui accouche ne veut pas d'enfant. Elle ne veut pas cet enfant pour elle, elle veut le confier à une autre personne. Donc nous, typiquement, ça marche pas.
Et qu'est-ce qu'on fait, par exemple, d'un cas comme l'adoption?
L'adoption, alors là, effectivement, on a des règles spéciales, mais l'adoption, dans la philosophie, nous, on a toujours vu ça comme la possibilité de confier un enfant à une famille, mais un enfant qui existe déjà.
D'accord.
Et donc là, on est sur quelque chose d'un peu différent, parce que là, on va créer un enfant à la base.
Très bien.
Alors que pour nous, l'adoption, c'est un peu une solution, on va dire, une solution de secours, entre guillemets, où malheureusement, voilà, il y a un enfant qui n'a pas de parents, peut-être il y a eu un accouchement sous X, donc on va lui trouver une famille, on va lui trouver un cadre, et on va le faire effectivement par l'adoption, qui a un régime particulier, mais parce que l'enfant est déjà là. Et là, nous, ça nous pose problème de créer un enfant pour le mettre dans cette situation à la base.
Oui, l'adoption, l'enfant qu'il ait quelques heures, quelques jours, quelques années de vie, il existe, il a son identité. Et c'est ce qui pose problème avec la GPA, du coup.
Ouais. Et puis après, on regarde justement sur le côté éthique, on va se dire, bon bah très bien, okay, la technique est possible, mais alors, ça va être qui ces femmes, par exemple? Pourquoi est-ce qu'une femme choisirait de porter l'enfant de quelqu'un d'autre? Parce que même si on peut avoir une très bonne expérience de la grossesse, voilà, c'est 24 heures sur 24, c'est pas comme un contrat de travail où après on rentre chez nous le soir et tout va bien. Là,
bien
c'est toute la journée, toutes les nuits. Il y a des risques aussi, bien
pour
sûr,
la santé,
l'accouchement,
ouais.
ça peut mal se passer. Voilà, qui accepterait de faire ça? Donc on regarde, et c'est là où effectivement on va pouvoir regarder dans les pays étrangers. On va voir qu'il y a le cas par exemple de sœurs qui le font de manière très altruiste pour leur sœur qui ne peut pas avoir d'enfant, c'est vrai. Et puis on va regarder dans d'autres pays, on voit que c'est des personnes malheureusement qui n'ont pas de ressources, qui font ça uniquement pour des considérations financières, qui sûrement, si elles avaient le choix, feraient autre chose. Et donc là, on va avoir le problème éthique qui se superpose au problème juridique où on dit, bah, nous, on ne veut pas tellement peut-être encourager une forme d'exploitation, on va dire, qui nous pose problème.
Et avec cette notion aussi de don de soi, là où le don d'organes, de sang, de sperme en France, c'est par exemple quelque chose qui n'a jamais été rémunéré,
oui.
Ne le sera peut-être jamais à l'avenir, les choses peuvent évoluer, mais en tout cas, à ce jour, c'est toujours le cas.
C'est vrai. Nous, de mémoire, on peut vendre ses ongles, ça c'est possible, ses poils, ses cheveux, ses dents. Historiquement, c'est les quatre choses qu'on peut vendre.
D'accord.
Si tu vois les Misérables, par exemple, Fantine, il me semble qu'elle vend ses cheveux, ses dents. Donc voilà, c'est une espèce d'anachronisme qu'on a gardé. Donc ça, oui. Par contre, tout ce qui est sperme, sang, organes, tout ça c'est non. Alors que l'Allemagne, par exemple, on peut être rémunéré pour le don du sang, il n'y a pas de problème. Nous, on a considéré voilà que ça devait rester un acte complètement altruiste, complètement gratuit, et vraiment ne jamais tomber dans la peur de la commercialisation du corps. C'est quelque chose vraiment qu'on essaye d'éviter au maximum, voilà, d'être sûr que même si la personne donne son accord, ça ne se fera pas. Je le vois souvent avec les personnes, ils ont cette espèce d'a priori, mais oui, mais si je suis d'accord, si je donne mon consentement, bah tout est bon. Et en fait, juridiquement, le consentement dans le domaine médical, il est essentiel, hein. Si on a la possibilité d'exprimer son consentement, bien sûr que c'est une condition, mais on en a une autre juridiquement, qui est, il faut qu'il y ait un intérêt médical. Et souvent, on est bloqué un peu sur l'idée, mais oui, mais si tout le monde est d'accord, mais ça ne suffit pas. Même si tout le monde est d'accord, il y a des choses voilà, qu'on ne peut pas faire parce qu'on a estimé au niveau national, au niveau du Parlement, que ça posait trop de risques, trop de dangers éthiques, trop de problèmes, trop de dérives potentielles aussi. Et c'est pour ça qu'effectivement, certaines choses, on continue à les interdire.
Et du coup, c'est difficile à comprendre pour le grand public que médicalement, voilà, comme tu dis, la GPA, par exemple, c'est quelque chose qui est possible, qui est faisable, qui est même simple. Alors, avec de très gros guillemets, ça reste quelque chose de, voilà, de médicalement difficile, mais aujourd'hui, ça se fait. Et que pour autant, en France, on n'est pas encore avancé de ce côté-là et qu'on entende souvent des gens dire, en Espagne, dans les pays scandinaves, les gens, les populations, enfin, les mentalités ont davantage évolué, les choses avancent plus vite.
C'est vrai, alors que c'est quelque chose sur lequel on réfléchit, parce que en France, la bioéthique, c'est réglé par des lois qui sont vraiment uniquement sur le domaine de la bioéthique. Et d'ailleurs, on a été les premiers à faire des lois bioéthiques en 1994. On est le premier pays à avoir choisi d'encadrer le domaine de la bioéthique. Avant, c'était plutôt encadré par des comités d'éthique dans chaque hôpital, vraiment à un niveau très local. Nous, très vite, on a senti le besoin d'avoir un encadrement vraiment national dessus. Donc là-dessus, la France, au contraire, est pas en retard. Elle a toujours été pionnière dans ce domaine-là. Et ces lois, on les révise périodiquement, justement, puisque tout change. Et à chaque révision qu'on a eue, donc on a eu les premières en 1994, ensuite on a révisé en 2004, en 2011, et là, l'année dernière, en 2021, systématiquement, on se repose cette question de la gestation pour autrui, et on a toujours à peu près la même réponse, c'est non. Pour l'instant, c'est vraiment quelque chose qui passe pas.
Comment ça se passe dans ces pays, alors sans aller trop loin, sans même traverser l'océan pour aller aux États-Unis, mais voilà, peut-être en Allemagne. Comment ça se déroule du coup pour eux? Vous avez des données statistiques
Alors, l'Allemagne, c'est vraiment un pays à part en Europe. Eux, pour des raisons historiques, ils ont une très très grande protection de l'embryon. Donc eux, c'est vraiment le pays peut-être qui est le plus fermé en termes de recherche ou de procréation médicalement assistée. Mais par contre, pour les États-Unis, je peux mieux en parler parce que je connais bien le système là-bas pour avoir participé justement à des processus de gestation pour autrui là-bas. La plupart du temps, il n'y a aucun encadrement, ou il y a très très peu d'encadrement législatif. Donc tout se fait par contrat. Donc déjà, il faut bien savoir que il faudra avoir un avocat, il faudra très bien négocier son contrat, puisque c'est ça en fait qui fera l'encadrement. On ne pourra pas se dire, ah bah s'il y a un problème, je vais me rattacher à la loi, je vais reprendre des choses qui existent dans le cadre de l'État dans lequel je suis aux États-Unis. Non, c'est par contrat. Et on peut un peu tout faire en fait là-bas. Disons qu'on va d'abord lancer le processus de création des embryons. Donc soit on vient avec ses propres gamètes, par exemple, voilà, je n'ai pas d'utérus, mais j'ai quand même des ovaires qui fonctionnent, donc je peux quand même avoir des ovocytes. Éventuellement avec un don de sperme. Donc là, c'est un peu, on va dire, c'est un peu comme une application de rencontre, les banques de sperme aux États-Unis. C'est-à-dire, il y a des profils avec des photos, avec une description très détaillée de la personne qui veut vendre son sperme d'ailleurs, puisque là, pour le coup, on est sur quelque
C'est
chose
rémunéré.
de payant. Donc elle va dire, voilà, j'aime le piano, je viens de telle origine, je suis plutôt rieur, enfin bon, moi ça m'a vraiment donné l'impression d'un site de rencontre.
Ouais, c'est un catalogue, quoi. Avec beaucoup
Oui.
d'informations, enfin beaucoup plus que ce que tu avais imaginé.
Exactement, on peut s'y perdre facilement, et puis plus on va dans des donneurs qui ont des professions assez haut placées, plus ça va être cher, par exemple aussi. Donc là, après, on va donc acheter notre petite fiole de sperme. En général, on en a besoin de deux à peu près. Et puis on va amener tout ça au laboratoire. Ils vont fabriquer les embryons. Ils vont attendre un certain temps qu'ils se développent. Et puis à peu près vers le blastocyste, donc c'est le cinquième jour à peu près, ils vont faire toute une batterie de tests qui sont beaucoup plus encadrés, voire interdits en France. Donc ils vont en tester un certain nombre, ce qui va permettre d'en écarter beaucoup. Et sur ce qui reste, là après, eh bien une fois qu'on sait exactement les embryons qu'on a, on va pouvoir commencer à chercher de la mère porteuse. Donc ça se fait souvent d'ailleurs dans les cliniques qui font un petit peu tout en fait, hein, qui font souvent à la fois le côté création d'embryons, mais aussi mise en relation avec des mères porteuses qui travaillent avec eux. Et là, c'est pareil, on va recevoir un dossier avec voilà, une photo de la mère porteuse, son âge, son origine, est-ce qu'elle l'a déjà fait, est-ce qu'elle fume, combien elle gagne. Souvent aussi, c'est une information qui est mentionnée, combien elle gagne, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, ce genre de choses. Et puis après, ça va être de la négociation, par exemple, des mères porteuses qui ont déjà été mères porteuses, ça va être un peu plus cher. Par exemple, une mère porteuse, on va dire en Californie, et je parle juste en rémunération de la mère porteuse, hein, pas le processus
Le coût
complet.
global, ouais.
Voilà, on va être sur du 50 000 dollars pour la mère porteuse. Si elle est expérimentée, ça va aller plutôt dans les 60 000 dollars. Hein. Voilà, il va y avoir cette phase un petit peu de négociation aussi sur le timing. Voilà, quand est-ce qu'elle est prête, quand est-ce que nous, on le veut. Quel type de relation aussi, est-ce qu'elle est d'accord? Est-ce qu'elle est d'accord pour rencontrer l'enfant, par exemple, pour partager l'histoire? Est-ce qu'au contraire, elle ne veut pas du tout rencontrer l'enfant?
Tout
Tout va
ça,
être...
c'est établi avant même la grossesse.
Exactement. Tout
D'accord.
doit être établi dans le contrat pour qu'il n'y ait aucun problème après. Il y a un aspect médical, bien sûr, il y a un contexte médical, hein, mais il y a aussi un contexte un peu commercial. Voilà,
c'est ça.
lorsqu'on est sur ce type de gestation pour autrui rémunérée, on le sent vraiment, le côté profil, choix, négociation, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent aussi.
Est-ce que ça a un lien selon toi avec, avec le système de santé américain qui est radicalement différent du nôtre? Est-ce que il y a une origine dans tout ça qui explique qu'aujourd'hui ça se déroule comme ça et que éthiquement ça ne pose du coup pas de problème à la population?
On est sur un pays qui fait partie déjà d'une famille dans les systèmes en droit très différents, qu'on appelle la common law, où tout est basé plutôt sur la jurisprudence, où il y a beaucoup moins de théorie. C'est vraiment caractéristique des systèmes anglo-américains. Il n'y a pas de théorie générale en matière juridique. Donc eux, ils sont beaucoup plus sur le cas concret, le cas particulier, avec une vision qui est moins globale. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, ce sont des règles qui sont parfois beaucoup plus proches, beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus, on va dire, adaptées aux situations. Et en même temps, voilà, il n'y a pas cette théorie générale, donc parfois ça peut poser des problèmes de cohérence, ou ce genre de choses.
C'est ça, ouais. Il n'y
Mais
a pas
on est.
d'harmonie du coup entre toutes les prises de décision, c'est plus du cas par cas.
C'est plus difficile, oui, de ce point de vue-là, quand on a moins cette théorie générale à laquelle on peut se raccrocher. Et donc, je pense que là-dessus, ça permet aussi, voilà, d'avoir cette contrainte en moins. Et c'est un pays traditionnellement aussi qui, on va dire, qui est beaucoup plus libéral, qui est beaucoup plus centré sur le choix des individus, sur leur volonté, sur leurs désirs, donc avec beaucoup moins de barrières. Dépendant des États, hein, on est bien d'accord
Oui,
que
bien sûr, oui.
y a des États qui sont peut-être beaucoup plus conservateurs sur d'autres domaines, mais voilà, si vraiment on prend l'exemple de la Californie, là, pour le coup, il y a beaucoup moins de barrières, beaucoup moins de barrières dessus.
Ouais, donc y compris dans le domaine de la santé, du coup, ça découle de ça. Tu parlais du diagnostic, alors je sais pas si c'est ça qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire, ce qui est les examens qui
Exactement.
sont faits sur blastocyste. Est-ce que tu peux nous donner, voilà, une idée de ce qui du coup peut être fait aux États-Unis et par exemple ne peut pas être fait en France ou dans
Bien
d'autres
sûr.
pays d'Europe?
Alors, le diagnostic préimplantatoire, effectivement, on va le faire avant de transférer l'embryon dans l'utérus de la mère, que ce soit d'ailleurs une mère porteuse ou la mère qui souhaite vraiment avoir un enfant. Et en ce moment, on va dire que ça se divise à peu près en deux. Il y a le diagnostic dans lequel on va rechercher une maladie génétique précise, par exemple, un des parents, on va dire, à la chorée de Huntington, ou à une maladie génétique vraiment assez grave. Et on n'a pas envie finalement que l'enfant en soit atteint. Donc on va essayer de vérifier si on n'a pas un des embryons qui serait sain, qui ne serait pas porteur de la maladie. Et donc on va pouvoir transférer. Donc on est sur une hypothèse un peu de sélection, vraiment. On regarde ceux qui sont atteints, on regarde ceux qui ne le sont pas. Et puis, à peu près au même moment où on a développé ce type de diagnostic préimplantatoire, les chercheurs en médecine se sont posé la question pourquoi, notamment lorsque la femme est un peu plus âgée, on va dire lorsqu'on touche vers 37, 38 et puis bien sûr vers 40 ans, pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de fausses couches? Et on a un chercheur qui a émis l'hypothèse que ce serait parce que la qualité des ovocytes diminuent avec l'âge. Et notamment, ils ont appelé ça des embryons aneuploïdes, c'est-à-dire des embryons qui n'ont pas exactement le bon nombre de chromosomes. Donc, on ne va pas
D'accord.
chercher une maladie particulière, on ne va pas regarder voilà, si sur un gène, voilà, il y a ce gène en particulier qui est là. On va simplement regarder le nombre de chromosomes et on va regarder s'il est bon. Et ça, ce diagnostic, on le fait aux États-Unis, on fait les deux souvent en même temps. Mais il y en a vraiment un qui est ciblé plutôt sur le côté « je cherche une maladie en particulier », et il y a l'autre qui est plutôt centré où on va regarder la capacité de l'embryon à être transféré, à rester implanté et à se développer sans que ça génère une fausse couche. Donc c'est pas exactement la même hypothèse. Ce test sur l'aneuploïdie, ça, il est interdit en France. C'est quelque chose qu'on ne fait pas. On est un des rares pays d'ailleurs à l'interdire. Quand on regarde nos voisins, le Royaume-Uni, il n'y a pas de souci. Même la Suisse, alors que la Suisse est souvent beaucoup plus en retard sur cette question, elle l'a admis. Et nous, on le refuse tout simplement parce que il y a beaucoup d'études contradictoires sur le sujet. Voilà, c'est une problématique qui date quand même à peu près des années 90. Et depuis les années 90, on n'a toujours pas réussi à se mettre d'accord pour savoir si ça marche ou pas. Si c'est vraiment un facteur qui fonctionne ou pas.
D'accord.
On a des études contradictoires vraiment quand je lis les revues scientifiques. on a beau avoir, je sais pas, des articles, on en a avoir plus d'une centaine, hein, avec vraiment des protocoles aléatoires, à l'aveugle, vraiment des grandes études. Et puis, on va en trouver une qui dit « oui, ça marche, c'est super, ça réduit les avortements spontanés, c'est parfait. » Et l'autre qui va dire « bah non, en fait, quand on regarde le taux de naissance à la fin, ça change pas grand-chose. » Donc voilà, on a des données contradictoires et c'est là où j'avais fait l'introduction sur le juriste prudent. Et ben nous, en France, on dit très bien, on n'est pas sûr. Donc, avant de faire un geste qui est quand même invasif, puisqu'on va quand même prélever une partie de l'embryon tout au départ, hein, on arrive avec une, on va dire une mini seringue, et puis on enlève quand même quelques cellules pour pouvoir faire ces tests. Avant voilà, d'être dans un processus très invasif, eh bien, on va faire une étude en France. Il y en a une actuellement qu'on a autorisée pour voir exactement, pour avoir des données plus proches de nous sur des établissements de santé en France, pour après décider si vraiment est-ce que ça vaut le coup ou pas de le proposer.
D'accord, très bien.
Et puis sur les maladies, c'est possible en France, c'est possible d'ailleurs depuis 1994, dès le départ. Par contre, c'est possible uniquement s'il y a un risque chez les parents. D'accord. Soit il y a un risque chez les parents, soit les parents, on va dire, ne veulent pas transmettre une maladie, par exemple le sida. Ils ne veulent pas prendre le risque de transmettre la maladie, d'où l'intérêt aussi de faire une procréation médicalement assistée. Donc voilà. Mais pour ce test en particulier, on va vraiment d'abord regarder l'historique de la famille, s'il y a une raison. Et si effectivement il y a une bonne raison, malheureusement, de croire que ce serait possible d'avoir un enfant atteint de cette maladie, là on va l'autoriser. D'accord. Alors qu'aux États-Unis, on peut le faire.
Sans raison valable, enfin je veux dire
arbitrairement. Sans aucun historique médical qui pourrait sonner l'alerte.
Très bien.
Là où pour nous, ça nous poserait problème justement sur la question de l'eugénisme.
Alors est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, avec des termes, parce que moi je peux me lancer dans une explication, mais j'ai très peur d'être hasardeuse. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'eugénisme ?
Alors l'eugénisme, spontanément, on y pense quand on pense à la Seconde Guerre mondiale, on y pense avec les expériences nazies, où on pense à un eugénisme très autoritaire de sélection. Alors il y a les deux versants, il y a le versant, on va dire, positif, mais c'est pas un jugement de valeur, hein. On va essayer de sélectionner les meilleurs. Et puis l'eugénisme négatif, où au contraire, on va essayer d'éliminer les personnes que l'on considère comme inférieures. Ça, en France, il n'y a pas de retour de ce qu'on appelle vraiment l'eugénisme autoritaire. Voilà, l'État dessus, il n'y a pas de risque que ça revienne. Par contre, on craint ce qu'on appelle l'eugénisme doux, c'est-à-dire celui qui est choisi par les parents en termes de tests qu'ils pourraient faire sur leur enfant pour essayer, d'une certaine manière, effectivement, eh bien, de ne pas avoir des personnes que l'on considère comme pas forcément inférieures, puisqu'on ne va plus être dans cette logique-là, mais peut-être sur... En anglais, c'est vraiment le concept de « life not worth living », la vie qui ne mérite pas d'être vécue.
Ah, très bien. Oui.
Donc, pas tellement parce que, voilà, c'est des personnes dont on ne veut pas, je pense que la problématique et l'angle a changé, mais des personnes que l'on considère par défaut qui seraient malheureux dans leur vie. Voilà, c'est un peu la question, par exemple, qu'on a beaucoup sur les trisomies. Est-ce que, voilà, c'est des personnes après qui auraient une vie qui mérite d'être vécue. Et donc, c'est pour ça, justement, que nous, on limite vraiment tout ce qui est ces tests de recherche de maladies génétiques lorsqu'il y a un historique. Parce qu'on a vraiment peur de tomber dans, on va dire, l'élimination systématique des personnes avec cette forme de handicap. Voilà. D'ailleurs, même pendant la grossesse, hein, le test pour la trisomie 21, par exemple, ce n'est pas un test obligatoire. Si on n'a pas envie de le faire, on ne le fait pas. Et il n'y a aucune sanction, hein. Ça ne joue pas du tout après sur la prise en charge avec des aides ou des choses comme ça, parce qu'on ne veut absolument pas tomber dans ce genre, on va dire, de zones d'eugénisme doux, ça c'est quelque chose, voilà, qu'on refuse systématiquement. Et c'est ce qui nous bloque effectivement sur ces tests. Hein.
Oui. Et puis, accepter ce type de diagnostic préimplantatoire, j'imagine que c'est aussi alors modifier la loi, puis ouvrir une brèche pour au risque que d'autres...
Oui.
Avec la médecine qui évolue, je ne sais pas, moi, des fois je me dis peut-être qu'un jour on dira « Ah, c'est un garçon, ah oui non, j'aurais préféré une fille ».
Tout à fait, parce que le diagnostic d'aneuploïdie, pour savoir s'ils ont bon nombre de chromosomes, bah, fondamentalement, quand on regarde aussi s'il y a XX ou XY, ouais. Donc on regarde tout de suite s'il y a un garçon ou une fille. Aux États-Unis, d'ailleurs, on peut choisir en disant, bah voilà, vous avez tel embryon, vous avez trois garçons, on va dire, et une fille, lequel vous voulez implanter en premier. Ah bah tiens, je voudrais une fille, par exemple.
Ah hop. Oui, cette information, elle est donnée aux parents.
Bien sûr. Bien sûr.
Tu vois, j'ignorais complètement.
S'ils le demandent, si par exemple ils veulent le secret du sexe, il n'y a pas de souci, mais s'ils veulent choisir, s'ils ont une requête en ce sens, en tout cas en Californie, il n'y a aucun problème pour le savoir. Donc nous, c'est aussi quelque chose qu'on ne veut pas. On ne veut pas du tout commencer à sélectionner les enfants sur le sexe aussi, c'est quelque chose voilà, où on pense éthiquement, mais encore une fois, c'est pas un jugement de valeur sur les autres pays, mais nous en France, on considère qu'éthiquement ce n'est pas une bonne évolution et que il faut aussi apprendre peut-être à limiter toutes les interventions qu'on peut faire, toutes les manipulations qu'on peut faire, parce qu'à chaque fois, il y a un risque. À chaque fois qu'on fait une biopsie sur un embryon, c'est un risque. Comme à chaque fois qu'on fait des tests même pendant la grossesse, les amniosynthèses par exemple, il y a des risques. Donc, il faut aussi apprendre à reculer un petit peu et voilà, dire que ce n'est pas parce que c'est médicalement faisable que c'est souhaitable.
Donc, ouais, complètement.
On est toujours entre les deux un petit peu.
Aujourd'hui, un couple en France qui n'est pas satisfait par les lois de bioéthique proposées par le pays actuellement, quels sont leurs droits en fait de se tourner vers l'étranger? Dans quelle mesure?
Alors, on n'a pas le droit.
Ouais.
À l'étranger, en théorie, on n'a pas le droit. C'est pour ça que ça a été un grand problème pour nous pendant des années,
ouais.
Sur les personnes qui faisaient des gestations pour autrui à l'étranger,
mmh.
qui revenaient avec l'enfant. Lorsque ça se passe, pour être simple, lorsqu'il y a un enfant, mais peu importe la circonstance, qui naît à l'étranger, la plupart du temps, on essaye de l'inscrire sur les registres de l'état civil en France, sur le livret de famille, voilà, pour avoir un acte français qui nous reconnaît comme parents de l'enfant. Et pour ça, il y a une procédure spéciale, c'est à Nantes d'ailleurs, il faut écrire à Nantes, au service de la justice à Nantes, pour demander l'inscription de l'enfant sur les registres français d'état civil. Et pendant très longtemps, nous, on a toujours dit non, on ne veut pas, parce que la loi en France est très claire, et vous avez choisi, eh bien, d'une certaine manière de la contourner, en allant à l'étranger. Donc, la réponse pendant très longtemps, ça a été non. Alors, je te rassure tout de suite, hein, c'est pas qu'on mettait les enfants dans un avion puis on les ramenait aux États-Unis. Hein. Bien sûr, l'enfant restait, il pouvait aller à l'école, il avait la nationalité française, il avait la sécurité sociale. Mais pour chaque démarche, il fallait montrer l'acte de naissance étranger et expliquer pourquoi il n'y avait pas de papier en France.
Mmh.
Maintenant, la situation est un petit peu différente. On a évolué et on accepte, on va dire, de transcrire cet acte de naissance. Mais c'est toujours un problème parce que si on dit... ne le faites pas en France, mais allez le faire à l'étranger. D'abord, il y a un côté parfois un peu hypocrite.
Mmh.
Parce que, voilà, si on dit en France que c'est pour des questions d'exploitation,
ouais.
Ça sonne un peu comme ne le faites pas avec des Français,
mais allez ailleurs, pourquoi pas.
D'autres personnes. Voilà.
Ouais,
on prend cet argument, par exemple, ça pose problème. Ça pose problème aussi en termes de coûts, en disant, si vous êtes riche, allez le faire à l'étranger.
Mmh.
Je trouve que c'est un petit peu gênant aussi pour des questions d'égalité. C'est pas forcément un bon raisonnement à avoir de dire si vous avez les moyens, allez-y, mais en tout cas pas chez nous.
Mmh.
Et puis il y a certaines choses où de toute façon on bloque. Je prends un autre exemple. Lorsqu'on commence un parcours de procréation médicalement assistée, c'est un parcours qui prend du temps. Voilà, il faut pas croire que c'est la solution miracle qui va permettre d'avoir un enfant en 2 minutes. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps à faire. D'abord pour voir si ça marche, on sait qu'il y a des échecs, hein, ça prend pas tout de suite, mais aussi le temps du conseil, le temps des procédures, le temps des rendez-vous avec les équipes médicales, voilà, c'est quand même assez long. Donc malheureusement, il y a le risque que par exemple, si on parle d'un couple, je veux dire un couple, on va dire d'un homme et d'une femme, parce que sinon ça a pas forcément marché avec les exemples que j'avais, mais imaginons que l'homme décède au milieu du parcours. Voilà, il avait donné son sperme, voire ils avaient créé les embryons, mais il décède. Nous, en France, ça stoppe tout. C'est impossible, après, d'implanter l'embryon ou d'en créer un, alors qu'un des membres du couple est décédé. On appelle ça la PMA, la procréation médicalement assistée post-mortem.
Donc même si l'embryon existe,
on ne peut pas
il ne sera pas implanté, d'accord.
C'est pas possible, on y a beaucoup réfléchi. Et on en est venu à la solution que non, on ne pouvait pas créer un enfant, par définition, avec des gamètes d'une personne qui était censée intervenir dans sa vie, mais là, qui ne va pas le faire. Donc, ça ne se fait pas. Ça se fait en Espagne ou en Belgique, ça se fait. Et donc, ça nous est déjà arrivé que des personnes qui avaient fait tout le parcours en France, donc avec des embryons ou du sperme congelé en France, demandent à ce que ce soit envoyé en Espagne. Et là, on dit non, on bloque. Pas possible.
Et eux n'ont pas la possibilité physiquement de récupérer ces échantillons, ça n'est pas possible.
Non, on ne peut pas arriver comme ça dans un laboratoire en disant « Alors, où sont mes embryons ?» Où est la petite étiquette avec mon nom ?
Tu vois, je me demandais même si légalement, on ne pouvait pas dire « Physiquement, ça m'appartient, donc je le récupère. » Tu vois, je me demandais.
Ah, ça, c'est une grande question sur est-ce que ça nous appartient par définition, nous, il n'y a pas de droit de propriété sur les éléments et produits du corps humain. Parce que si on disait qu'il y avait un droit de propriété, le droit de propriété, ça va avec quelques conséquences, notamment je fais ce que je veux avec, dans le respect des lois, mais si c'est à moi, je fais ce que je veux. Voilà, mon téléphone, si j'en veux plus, par exemple, je le jette. J'ai le droit de le jeter. Si j'ai envie de le laisser dans un placard pendant 10 ans, je le laisse dans un placard. Si j'ai envie de le donner à ma mère, qu'en a besoin, je lui donne. Il y a vraiment un aspect très fort sur la propriété qu'on ne peut pas avoir sur des éléments et produits du corps humain qui serait un peu dangereux pour nous.
Je vais dire un truc hyper naïf, mais en fait, du coup, ton travail, c'est aussi de... C'est très bête ce que je vais dire, hein. Mais de trouver des cas concrets, des situations, et de toujours tirer le fil un peu plus loin pour aller jusqu'à le petit détail qui ferait que ça poserait problème à un moment donné.
Ouais. C'est une grande difficulté dans mon travail, c'est-à-dire que quand on parle procréation médicalement assistée, souvent on est avec des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est une réalité qui est très dure, où on compatit forcément avec ces personnes. Voilà, c'est souvent en plus des histoires très compliquées. Voilà, de syndromes parfois qu'on apprend quand on est adolescente. C'est aussi, voilà, on sent que c'est des personnes et c'est voilà, j'avais rencontré une personne qui a le syndrome de Rokitansky, qui n'a pas d'utérus, qui est née sans utérus, et elle me disait, moi après, ça m'a posé beaucoup de problèmes aussi pour me construire, au-delà de l'impossibilité d'avoir des enfants, mais pour me construire aussi comme femme. Est-ce que si j'ai pas d'utérus, est-ce que je suis quand même une femme? Est-ce que je suis dans ces cases-là? Voilà. Donc, il y a toute cette souffrance d'un côté, et nous, en fait, on est obligés de s'écarter, voilà, d'être un peu plus froid, et de dire... La souffrance est légitime et il faut essayer de trouver une solution à cette souffrance. Mais attention, moi, je dois aussi regarder tout ce qui va poser problème, des problèmes peut-être plus techniques. Donc, il y a vraiment cette mise à distance, je trouve parfois, qui est très dure à faire. J'imagine que toi, quand tu étais infirmière, tu as dû aussi avoir des histoires un peu dures avec des patients où voilà, ça te prend et parfois, tu as envie de faire quelque chose et tu as envie de dire, mais non, allez, on le fait, là, il y a trop de souffrance. Mais parfois, il y a aussi plein de problèmes.
Derrière qui peuvent en découler. Ouais, ouais.
C'est ça, et souvent des problèmes auxquels les gens n'y pensent pas. Par exemple, voilà, on a fait une procréation médicalement assistée post-mortem. Comment on fait pour la succession du papa, du coup? Parce que lui, il est déjà mort, mais l'enfant, s'il arrive un an après, qu'est-ce qu'on fait exactement? Il peut hériter, il ne peut pas hériter, on met tout en stand-by. Plein de questions techniques ennuyantes et voilà, pas drôle, mais ouais, ton rôle il est
pas déshumanisé, mais tu es dans l'une des branches auxquelles il faudra penser de toute façon dans tout l'arc voilà, qui découlera d'une conception d'une façon ou d'une autre. Mais exactement. Malgré tout, j'imagine, alors en tant qu'humain, en tant que femme, en tant que personne, tu arrives quand même à comprendre que certaines personnes disent, voilà, moi en France, on n'a pas répondu à ma question, je me suis tournée vers l'étranger pour une
procréation.
Bien sûr, ça n'empêche pas.
Ça, je le comprends parfaitement, hein, et c'est pour ça que c'est les gens qui le font, voilà, n'avaient pas vraiment d'autre forme de sanction que de dire non, on ne met pas sur l'état civil, il n'y avait pas de sanction, bien sûr, sur l'enfant en tant que tel, qui n'y est pour rien. Mais on est obligé à un moment de ne pas non plus se laisser avoir par la théorie du fait accompli. Parce que parfois, c'est trop facile aussi de dire « ça se fait à l'étranger, donc on est obligé de le faire ». Attention, non, c'est pas parce que ça se fait à l'étranger qu'on doit forcément le faire. Parfois, il y a toujours quand même des combats à mener sur certaines choses. Et voilà, il faut savoir dire non. Et parfois, c'est dur de dire non.
Oui, c'est sûr.
En cas de dire pas maintenant. Voilà, mais... On espère que dans le futur, il y a beaucoup de solutions, par exemple, qui permettra de régler le problème des mères porteuses. Les transplantations d'utérus, maintenant, ça existe, toujours au stade expérimental, mais ça marche de mieux en mieux. Donc peut-être qu'à terme, au lieu de faire une gestation pour autrui, on pourra tout simplement transférer un utérus, voire, mais ça, les recherches sont moins avancées, créer un utérus artificiel. Donc c'est aussi parfois se dire, est-ce que ça vaut le coup que je perturbe tout le système juridique pour quelque chose, vu la rapidité des progrès médicaux, être réglé dans 20 ans?
Oui, c'est sûr, c'est sûr.
C'est pas
Et
sympa pour
quels
les
sont
gens qui doivent
les...
attendre, mais...
C'est certain. Et quels sont les enjeux actuels de la procréation médicalement assistée en France? Sur quel sujet vous êtes en train de discuter quelque chose vraiment
Alors,
qui est très présent en ce moment?
nous, comme ça s'est fait l'année dernière, la dernière réforme, je vois à peu près sur lesquelles on a beaucoup discuté, ça a été pas sur la gestation pour autrui des mères porteuses, ça a tout de suite été écarté très vite.
D'accord.
Ça a beaucoup été sur l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de même sexe et aux femmes non mariées. Voilà,
Ah
en termes
oui.
de population, à qui est-ce qu'on va l'ouvrir? Ça a été un grand enjeu, vraiment. Une grande avancée en tout cas, voilà, qu'on a fini par faire. Parce qu'il y a eu énormément de discussions là-dessus, parce que nous, on était toujours restés à l'idée que la procréation médicalement assistée, c'était la solution à un problème médical. Je suis censée pouvoir avoir des enfants,
Mais
mais pour X
je n'y
raisons, je
parviens
n'en ai
pas.
pas. Alors qu'un couple homosexuel ou une femme célibataire, c'est pas la même chose. Ils ne peuvent pas avoir d'enfants, mais pas pour une raison pathologique, entre guillemets. Plus un problème structurel de compatibilité corporelle, voilà, ça ne fonctionne pas. Donc c'était aussi, est-ce qu'on va changer, on va dire, toute la vision, tout l'encadrement qui était construit autour de cette nécessité pathologique. Donc ça, pour nous, c'était très important au niveau de la théorie de voir comment est-ce qu'on allait régler ça, entre guillemets. On a eu beaucoup de débats sur la possibilité de congeler ces ovocytes. Justement, tu parlais de personnes qui le font, ça se faisait beaucoup en Espagne, de savoir si on pouvait faire congeler ces gamètes. Parce que c'était possible uniquement dans un cadre médical. Par exemple, j'ai un cancer, je vais faire une chimiothérapie. Du coup, en prévision, effectivement, je pouvais le faire. Mais imaginons simplement que j'ai 35 ans. J'ai pas encore rencontré la bonne personne, ou peut-être je suis pas prête dans ma vie, mais voilà, je voudrais déjà congeler mes ovocytes pour plus tard. Et ça, nous, on a toujours refusé. Maintenant, par exemple, c'est possible.
D'accord, sans raison, voilà, pathologique ou un traitement qui
Exactement.
perturberait la fertilité ou autre.
Juste
Idem
pour
pour un homme
décaler
qui, du
dans
coup,
le
par
temps.
exemple, a une vasectomie, souhaite congeler également
Par
du
exemple.
sperme avant une vasectomie.
Exactement. Là, maintenant, on a enlevé toutes les barrières sur la possibilité de le faire. Effectivement, parce que beaucoup de personnes le faisaient à l'étranger. Et c'est un peu toujours aussi délicat de savoir que ça se fait à l'étranger, parce qu'on ne sait pas toujours dans quelles conditions. Voilà. Beaucoup de ces pays, quand même, ils ont une logique plus commercialiste. Et voilà, est-ce qu'il y a la même qualité de soins? Est-ce qu'il y a la même qualité de service aussi? C'est très difficile à juger pour des gens qui, par définition, voilà, c'est pas leur domaine. Là, on a choisi aussi, voilà, d'évoluer sur ce point de vue-là et de dire, bon, bah voilà, c'est une possibilité, mais ça a été extrêmement débattu. Vraiment, il y a des arguments pour et contre qui ont été vivement débattus quand on regarde un peu les retranscriptions de l'Assemblée nationale. C'est pas des sujets faciles, on va dire, hein.
Et qui intervient du coup dans ces prises de décision? Alors des profils comme le tien,
Ça, c'est possible, bien sûr, des médecins,
des scientifiques, voilà.
des scientifiques, beaucoup pour expliquer où on en est et pour expliquer aussi leurs besoins parfois. Parce que je peux prendre un cas sur l'autorisation de faire des recherches. Lorsqu'on veut faire des recherches, notamment des recherches sur tout ce qui est embryon, les cellules souches, voilà, toutes ces questions sur lesquelles on fait beaucoup de recherches actuellement dans lesquelles on a beaucoup d'espoir pour la suite. Il faut une autorisation, notamment une autorisation de l'Agence de la biomédecine. On ne peut pas dire tout de suite, moi je vais commencer à faire des recherches pour cloner tout le monde. Ça ne marche pas. Il faut une autorisation pour que ce soit encadré, pour qu'on contrôle aussi les recherches qui sont en cours en France pour vérifier qu'il n'y en ait pas qui, par définition, soient contraires au cadre juridique. Et c'est une autorisation qu'on doit demander avant et les médecins se sont aperçus que souvent, dans l'autorisation, il fallait dire, il fallait élaborer sur ce qu'ils comptent tirer de la recherche. Qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que ça va permettre? En gros, les résultats concrets, les fruits qu'on va pouvoir en retirer. Et beaucoup disaient, bah, en fait, on ne sait pas. Par définition, on commence une
On
recherche, on sait,
cherche.
voilà, on cherche, on ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas où ça va aller. On espère que ça va produire quelque chose, mais en fait, on n'en sait rien. Et donc, ils disaient que beaucoup écrivaient pas n'importe quoi. mais remplissez ça vraiment.
Oui, comme remplir une case, quoi.
Exactement. Et que, voilà, par exemple, il disait, bah, cette case-là, il faudrait peut-être adoucir un peu l'encadrement de ce point de vue-là. Parce que nous, en fait, au final, ça nous force à écrire des choses qui sont peut-être complètement éloignées de ce qui va se passer, où on a le sentiment un peu d'être hypocrite d'une certaine manière. Voilà. Ou ça, par exemple, ce serait bien que. On allège un peu la recherche de ce point de vue-là.
Ouais, d'accord. Ah oui, c'est intéressant d'avoir aussi les coulisses de tout ça. Savoir
Bien
que... Ouais, parfois, on a le droit aussi de chercher, sans forcément savoir ce qu'on va retrouver derrière, mais d'engager des recherches, quoi.
C'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir des médecins qui viennent nous expliquer leur point de vue et qui viennent nous expliquer leurs besoins, nous expliquer aussi les recherches qui se font à l'étranger, parce que... Moi, je le vois bien pour tous mes articles, quand je dois lire des revues médicales, elles sont en anglais. Elles sont typiquement en anglais, donc il faut avoir la capacité aussi de comprendre l'anglais et puis aussi de comprendre des termes techniques anglais dans le domaine médical. Donc nous, on a besoin de ces personnes qui viennent nous dire, voilà, ça se fait à l'étranger, peut-être en dehors de la procréation médicalement assistée, mais vraiment dans le champ de la bioéthique. Nous, on a toute la problématique de ce qu'on appelle les ciseaux génétiques. Je ne sais pas si tu en as entendu parler.
Non, pas du tout.
Ce serait l'idée, par exemple, lorsqu'il y a un gène qui va poser problème, eh bien, on va couper une partie de l'ADN et on va la remplacer par une autre. C'est pour
D'accord.
ça qu'on appelle ça les ciseaux génétiques. Ça s'appelle CRISPR, une technologie qui est assez récente, sur laquelle il y a beaucoup de recherches actuellement,
Ok.
pour traiter justement ces maladies, pour arriver à une forme de traitement en disant, bah, attends, c'est pas grave, on coupe, on
On
remplace,
remplace.
copier, remplacer, hop, 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 et c'est réglé. Et ça, bon, c'est pas encore au point, hein, parce qu'on s'est aperçu qu'on coupait et que ça entraînait des modifications sur d'autres endroits de l'ADN, donc c'est pas encore au point. Mais c'est intéressant comme recherche. Et nous, malheureusement, on avait une grande interdiction qui était de créer des embryons avec deux sources d'ADN, si tu veux, pour simplifier, puisque si tu remplaces, forcément, tu ramènes une séquence qui n'est pas celle de l'embryon à la base, qui n'est pas celle de la personne. Donc, je suis en train de chercher le mot sur le poud des embryons. Bon, ça m'en reviendra.
Ça va te revenir à la fin de l'épisode, ça va être pénible, hein, tu vas
Exactement,
voir.
c'est affreux. Hein, mais voilà, on interdisait ce mélange, en fait, si tu veux.
D'accord.
Et donc, les chercheurs nous ont dit, bah ouais, mais bon, c'est un petit peu embêtant, parce que du coup, on a le droit de couper, on a le droit de faire des recherches sur comment on coupe, mais on n'a pas le droit de faire les recherches sur comment remplacer.
Ah oui, on a fait la moitié du travail, quoi.
Voilà, c'est un peu embêtant. Donc, ce serait bien peut-être aussi d'assouplir de ce point de vue-là. Donc voilà, périodiquement, on regarde, on fait le point avec des médecins. Et puis, si on pense que c'est une bonne chose, eh bien, on fait évoluer la législation.
Et comment est-ce que vous arrivez à parler le même langage? Parce que donc toi, tu as une formation dans le droit à la base, et je me demande, parce que du coup, je pense que dans les termes techniques, ça doit aller très très loin, y compris dans des revues qui sont en anglais. Comment tu t'es formée à ça? Alors, par où commencer?
On va dire que comme ça a été ma volonté personnelle de faire des recherches dedans, du coup, j'ai dû m'y mettre seule. C'est-à-dire que l'anglais,
Oui.
ça m'a jamais posé trop de problèmes, donc ça allait. Et puis après, au lieu de lire un article en 15 minutes, tu y passes 3 heures, tu es là avec ton logiciel de traduction pour certains mots au départ. Et puis, tu essayes petit à petit, de croiser tes sources jusqu'à ce que, comme tu travailles quand même globalement sur le même vocabulaire, voilà, moi, tout est
Oui.
centré vraiment sur l'embryon, sur des choses comme ça. Donc,
Sur un domaine de recherche
voilà.
un peu plus restreint,
Après,
mais ça reste vaste quand même.
c'est compliqué. Et puis vraiment, moi, je me rappelle une anecdote où je faisais des recherches sur justement une maladie en particulier qui s'appelait avant le syndrome du testicule féminisant. Quand on avait voilà,
D'accord.
des problèmes sur des anatomies qui ne correspondaient pas exactement au genre, enfin, d'autres choses. Et puis, je lisais un autre nom de maladie, et je disais, ah, mais ça ressemble, c'est la même chose. Mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même nom. Je disais, pas le même nom, ce n'est pas la même chose. Et ça m'a pris 2 heures pour comprendre que c'était le nouveau nom de cette maladie, quelque
Oh
chose qu'un
là
médecin m'aurait dit en 2 secondes. Mais moi, j'ai passé 3 heures à comprendre la différence entre ces deux maladies. Il me semble que maintenant, c'est le SICA, le syndrome d'insensibilité complète aux androgènes. Mais voilà, d'un côté, j'avais SICA, j'espère que c'est le bon mot. De l'autre côté, c'était le testicule féminisant. Et puis voilà, un médecin, lui, te dit ça tout de suite. Mais toi, par définition, comme moi, je n'ai aucun bagage médical à la base, eh bien, c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long. Mais voilà, plus ça avance, plus c'est simple. Mais c'est vrai qu'au départ, quand on rentre tout de suite dans des articles très techniques, faut s'accrocher. Mais
J'imagine.
C'est aussi ça qui est intéressant. Et quand je parle avec des médecins, c'est pareil. Il y a plein de mots, il y a plein de notions. Et ils sont là, mais pourquoi vous embêtez avec ça? Ben oui, mais parce que c'est, c'est notre langage à nous. Et c'est pas le même que le langage courant, même si on se dit parfois mariage, pax, concubinage. Dans le langage courant, c'est la même chose que le langage en droit. Ben nous, en fait, il y a plein de mots. On pense que c'est pareil, mais c'est pas pareil juridiquement parlant.
Ah, t'as des exemples, tiens, pour illustrer ça?
Par exemple, en français, mutuel et réciproque, c'est synonyme, hein. Tu utilises un peu les deux dans le même sens. Mais nous, c'est pas pareil. Par exemple, quand t'es marié, tu as un devoir de fidélité, voilà, tu dois être fidèle à ton conjoint, et c'est un devoir mutuel. Ce qui veut dire que si ton conjoint n'est pas fidèle, toi, tu dois quand même l'être. D'accord ? Ce n'est pas une excuse pour toi ne pas le faire.
D'accord.
Alors que quelque chose de réciproque, si l'autre ne le fait pas, toi, du coup, tu es dispensé de le faire.
Ah, c'est incroyable, d'accord.
Nous, c'est très différent, et donc, voilà, c'est des subtilités qui échappent forcément aux personnes qui n'ont pas de bagage juridique, hein. C'est normal, c'est le langage de chaque science, de chaque domaine. Mais...
Ah ouais, c'est fascinant. Alors que c'est vrai que dans le dictionnaire des synonymes, probablement qu'ils sont à la même... Ils sont à la même ligne.
Mais bien sûr, il n'y a que nous pour mettre des petites subtilités, mais qui sont importantes, parce que c'est une vraie question. Qu'est-ce qui se passe si l'autre ne le fait pas? On va faire les deux cases. Une, tu es obligé de le faire. L'autre, tu n'es pas obligé de le faire.
Et puis l'usage du nonobstant le fait. Alors moi, ça, c'est une expression que j'adore. Rien que pour ça, j'aurais aimé faire du droit. Qu'est-ce que j'aurais aimé pouvoir utiliser cette expression au quotidien?
Dans la vie de tous les jours, effectivement.
Alors nonobstant le fait que... Il me manque du beurre pour faire, pour faire un gâteau.
Je vais me débrouiller avec autre chose.
C'est ça. Alors du coup, toi, aujourd'hui, tu as dédié ta carrière à la recherche et à l'enseignement. Comment est-ce que ton temps de travail se découpe entre les deux?
Alors, on va dire que moi, j'essaye de mettre mes cours à peu près sur 2 jours. Tous mes cours sur une période de 2 jours, où là, je ne fais qu'enseigner, plus, on va dire, les tâches administratives. Hein, par exemple, je co-dirige 2 diplômes. Bah, ça va avec, par exemple, sélectionner les profils, vérifier les demandes d'étudiants, chercher des partenariats, voir les problèmes de maquette. Donc, voilà, tout ce qui va être administratif, faire les sujets d'examen, gérer mon équipe aussi d'assistants. Voilà, tout ce domaine-là, on va dire que j'essaye de mettre ça vraiment sur... 2 jours, et puis que le reste du temps, ça va être vraiment consacré à la recherche, parce que c'est ce qu'on disait, quand tu te plonges dans des articles compliqués, dans des choses, voilà, tu peux pas le faire en disant, je fais 1 heure par-ci, par-là, tu as besoin d'une grande plage horaire pour te consacrer qu'à ça, faire ta recherche, et après, bien sûr, écrire, donner des conférences, partager en colloque, ce genre de choses, faire des projets de recherche à plusieurs, voilà, tu as vraiment besoin d'une grande plage de temps sans être dérangé, sans être perturbée par autre chose.
Est-ce que tu aurais pu faire le choix, toi, dans ta carrière, de ne faire que de l'enseignement ou que de la recherche, ou est-ce que les deux sont forcément
Alors, les deux vont ensemble.
Associés.
On est vraiment enseignant-chercheur. Parfois, j'entends beaucoup les gens dire « Mais comment ça, tu n'as que... » Je crois que l'obligation légale, le minimum, on va dire, d'heures de cours à l'université pour un maître de conférence, c'est 128 heures. 128 heures, donc, sur 2 semestres, donc 24 semaines. Quand tu fais le ratio heures de cours par, on va dire par semaine, souvent les gens regardent en disant « Ah ben c'est vraiment pas beaucoup, hein, c'est sympa la vie !» Je suis « Bon d'abord il faut préparer des cours, ça prend énormément de temps. » Mais surtout après, nous on n'est pas censé qu'enseigner, on est censé faire de la recherche pour progresser, pour faire progresser le système juridique, pour être à la pointe aussi, pour nos étudiants, pour voilà, être aussi...
Oui, la recherche, elle te bénéficie aussi en tant qu'enseignant derrière.
Bien sûr. À chaque fois, par exemple, là, j'ai des séminaires en philosophie du droit, philosophie, sociologie du droit. Et par exemple, l'année dernière, j'ai fait sur le thème de la naissance, où on a vu ensemble tous les problèmes philosophiques sur la question de la naissance, tous les enjeux éthiques sur la question de la naissance. Et donc, bien sûr, moi, j'ai pu utiliser toutes mes recherches sur les nouvelles technologies de reproduction pour leur montrer, bah voilà, attention, regardez, ça, c'est pas là maintenant, mais en fait, c'est pas un futur éloigné, c'est un futur proche. Ça va venir, ça va arriver. Donc, c'est bien si vous êtes au courant de ça un petit peu et que ça puisse nourrir aussi votre réflexion en tant que citoyen, même si ce sera pas forcément des juristes en droit des personnes et de la famille, mais pour avoir peut-être plus d'informations sur des débats de société.
Bien sûr.
Ce genre de choses. Quand on fait l'euthanasie aussi, pareil, quand on le fait avec les étudiants, on regarde tous ces grands débats, et puis on discute ensemble, on essaye de trouver des arguments juridiques, on essaye voilà, d'avoir... On peut se forger sa propre opinion après, moi, il n'y a pas de souci. Je dis aux étudiants, si vous ne pensez pas la même chose que moi sur tel ou tel domaine, bon, d'abord, c'est difficile parce que je ne vous donne jamais mon opinion personnelle, mais imaginons que vous la connaissiez, ce n'est pas grave. L'université, c'est un lieu de débat, c'est un lieu d'échange. Ce n'est pas simplement prendre en note des cours toute la journée et souffrir comme des esclaves. C'est aussi échanger, argumenter, parfois se faire convaincre ou convaincre quelqu'un. Voilà, c'est le but de l'université en droit, c'est vraiment ça. Et donc pour ça, on a besoin de faire de la recherche. Et on a besoin de temps pour le faire.
Est-ce que c'est dur de ne jamais amener un positionnement personnel dans un cours ?
Oui, c'est compliqué sur plein de domaines où parfois on a envie de donner peut-être les arguments pour, parce qu'on est pour, donc on a envie parfois de mettre un peu l'accent sur le pour, ou parfois au contraire on est très contre et donc on va plutôt mettre en valeur les arguments contre. C'est pareil, c'est la question de savoir se distancier pour essayer d'être pas hypocrite, hein, mais le plus neutre pour pas influencer, parce que autant des étudiants par exemple en cinquième année, c'est un peu tard pour les influencer, hein. Ils sont grands, il n'y a pas de souci. Autant, moi, quand j'ai des étudiants en première année, c'est fou. Parfois, je les retrouve des années après et ils me ressortent des positions parfois qu'ils ont fait leurs. Et je me demande s'ils les ont fait leurs vraiment par conviction ou parce que, voilà, ils étaient tout petits, ils étaient tout bébés, ils ne connaissaient rien encore au droit. Et donc, est-ce que, voilà, on les influence pas malgré nous plus facilement en première année ? Je trouve que c'est un peu difficile. Possible. Puis c'est une demande parfois de leur part, et parfois ils demandent, mais du coup, vous en pensez quoi ?
Oui, et puis j'imagine avec des questionnements, bah, typiquement aujourd'hui, la question du droit à l'avortement aux États-Unis, on en parle énormément en France, bah, d'ailleurs, voilà.
C'est dans la Constitution maintenant,
voilà,
ça y est.
Voilà. J'imagine que c'est des questions aussi qui arrivent dans le débat, qui sont posées en cours.
Oui, c'est. C'est pas simple. Déjà, avec des étudiants français, moi, je donne beaucoup de cours aussi à l'étranger. Par exemple, je donne cours à Dubaï pour un programme étranger. Et j'ai des étudiants voilà, de beaucoup de pays différents, donc bien sûr de Dubaï, mais aussi d'Égypte, du Pakistan, d'Inde, etc. Et je fais les mêmes problématiques avec eux en droit des personnes, c'est-à-dire que je fais le cas des transgenres, des intersexes, de l'euthanasie, de toutes ces problématiques qui sont le cœur du droit des personnes. Et là, je leur explique toujours, il faut que vous arriviez à vous détacher de votre culture, de votre religion aussi, hein, ouais, potentiellement, ouais. Parfois ça a un impact, pour qu'on puisse en discuter de manière respectueuse, voilà, en disant, c'est peut-être pas la solution pour votre pays, mais peut-être que c'est la solution pour un autre, et il faut savoir un petit peu aussi le faire comme ça. Et moi, ça m'a beaucoup appris d'enseigner à l'étranger aussi, pour savoir un petit peu reposer les choses calmement et garder voilà, un cadre, on va dire, respectueux et neutre d'échange.
Et les élèves arrivent justement à trouver cette distance. J'imagine, voilà, quand on est, bah, par exemple, dubaïote, dans un pays où voilà, les droits de l'homme sont radicalement différents de la France.
C'est difficile, mais je trouve que ça s'est très bien fait. J'ai eu aucun souci jusque-là avec les étudiants, alors qu'effectivement, on faisait l'avortement aussi, l'égalité homme-femme, on faisait plein de choses différentes, mais ils étaient très curieux. M'a toujours... j'ai beaucoup d'admiration lorsque voilà, je suis dans une promo avec des étudiants curieux. Je ne demande rien d'autre que des étudiants curieux qui ont envie de voir ce qui se passe, qui ont envie de comprendre, qui découvrent des choses qui ne connaissaient pas, qui n'imaginaient même pas possible. Parfois, on est très fermé sur ce qui se passe chez nous et on ne pense pas que ça peut être complètement différent ailleurs. Et non, je crois qu'ils ont beaucoup aimé et même moi, ça m'apprend aussi à être un peu meilleur chaque année. Nous, on est censé progresser chaque année, nous aussi, en tant qu'enseignants.
Oui, c'est sûr. De quoi est-ce que tu manques au quotidien, que ça soit dans le domaine de la recherche ou dans l'enseignement ?
D'abonnement à des revues médicales. C'est très difficile parce que ce sont des revues qui sont payantes. Et par définition, comme moi, je suis classée dans la catégorie juriste, j'ai accès à toutes les revues légales et juridiques que je veux, mais pas aux revues médicales. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour trouver les sources.
Pas d'accès du tout.
Non, c'est très cloisonné en France, la question des abonnements. Puisque par exemple si tu es dans une université qui va faire je sais pas droit et économie par exemple, eh bien tu vas avoir les abonnements que l'université paye, et l'université bah c'est cher, elle paye que les abonnements pour les revues juridiques. Alors que par exemple quand je travaille en Suisse, ça m'est déjà arrivé, bah là comme c'est une université avec des facultés différentes en son sein, bah du coup si tu es dans la faculté droit, tu as accès à
Tu
toutes les revues
consultes.
des autres facultés et ça facilite quand même énormément le travail de recherche.
Ah mais c'est incroyable ça que vous ayez pas accès à ça.
Bah pas toujours, ça dépend vraiment la taille de l'université dans laquelle tu es, mais souvent on n'est pas relié à des universités de
Oui,
médecine.
mais alors que d'un point de vue logistique, ça serait quand même pas très compliqué à mettre en place. Enfin, c'est les revues existent.
Ben oui, mais
Les...
payant.
La demande est là. Oui, payante, ouais. Oh, mais
Bah,
encore.
la demande est là. On n'est pas tous spécialisés en droit des personnes et on n'est pas tous encore
Non.
plus spécialisés en droit médical. Donc, je peux comprendre, mais c'est vrai que ça, il y a un côté vraiment recherche à proprement parler où tu dois trouver les choses
Toi-même.
en sachant que la plupart, encore une fois, des revues que j'utilise sont des revues américaines,
Eh
anglaises.
oui.
Parfois qui sont très fermés. La revue d'Oxford, par exemple, de ce point de vue-là, elle est très fermée en termes d'accès. Donc, je suis toujours en train d'envoyer des messages à mes amis. Tu n'as pas accès, par exemple, à la revue d'Oxford, parce que je sais que tu as fait un échange là-bas à un moment.
Je suis sûre qu'il te reste des accès.
Mais ça force à développer un réseau.
Ah bah, c'est
Moi,
certain.
ça m'a forcé à, on va dire, contacter des personnes en disant, écoutez, moi, voilà, moi, je travaille là-dessus, bonjour d'ailleurs, ça va, etc. Et voilà, j'aimerais savoir si c'était possible, par exemple, d'avoir accès à telle source ou à telle chose. Et ça, c'est bon, on va voir le
Et
bon côté des choses à chaque fois.
à bon entendeur, hein, s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui a des bons filons,
C'est ça.
n'hésitez pas, je vous mets en contact. Hein.
Mais non, je dirais que c'est la plus grande difficulté parce qu'après, nous, on est très libre. Je pense que c'est l'avantage principal de mon métier. C'est pour ça que j'aurais jamais pu faire autre chose. On est extrêmement libre. On peut travailler. Je parle sur le côté recherche où on veut. C'est-à-dire, je n'ai pas de bureau à l'université. Donc, par définition, je peux travailler de chez moi. Je peux travailler d'une maison de vacances.
Ouais.
Voilà, j'ai envie de voir ma mère. Bah, je vais voir ma mère. Et puis, je travaille de chez elle. Enfin, il y a cette liberté qui est incroyable. Ou parfois on est un peu seul, c'est vrai, mais on est libre de faire les choses comme on veut et surtout on est libre de dire ce qu'on veut.
Et quand tu fais des travaux de recherche avec d'autres juristes, est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un qui sera expert dans un autre domaine et que vous avez envie d'allier vos compétences? Ou est-ce que
C'est
c'est parce
très
que vous
variable, hein.
souhaitez être deux pour une raison X ou
C'est
Y?
très variable. Ça peut être parce que tu t'entends très bien avec cette personne et tu as envie de faire un projet avec cette personne. Donc là-dessus, ça va être vraiment sur le côté feeling, parce que c'est toujours mieux de travailler avec des gens avec qui on s'entend bien. Ça peut être parce que c'est une spécialité complémentaire à la tienne, donc là, ce sera très utile. Ça peut être pour des questions de langue. Récemment, on va dire au début d'année, j'ai publié un article dans une revue suisse. Simplement, je parle pas assez bien l'allemand pour pouvoir écrire en allemand. Donc, du coup, j'étais avec une professeure en Suisse pour apporter d'abord le côté un peu droit suisse et puis aussi pour pouvoir écrire et traduire au final l'intégralité de l'article en allemand. Donc, ça peut être une raison aussi. Ou parce que c'est quelqu'un qui vient d'un autre pays. Donc, tu es vraiment sur le côté droit comparé. Donc, ça, c'est vraiment un petit peu selon tes besoins et selon tes envies aussi, parce que c'est important de travailler avec des gens quand même bien. Les questions de bioéthique, c'est des questions qui déchaînent des passions. Encore une fois, c'est très sensible et je pense que on n'est pas toujours bien informé sur ces questions. Moi, j'ai du mal à trouver des... Pas pour moi, parce que du coup, ça va. Mais parfois, quand je discute avec des gens de ma famille ou d'autres personnes et ils disent, ah, mais en fait, j'avais pas compris toutes ces difficultés, toutes ces ramifications, toutes ces implications. Voilà, je voyais pas tout ça. Je pensais pas que la France, en fait, était aussi à la pointe, en termes d'encadrement. Peut-être il y a des choses qu'on refuse, mais par contre, on a un avantage, c'est que chez nous, tout est dans la loi. Tout est inscrit. Je veux dire, on n'a pas besoin d'être dans le gris, on n'est pas dans une zone floue où on ne sait pas trop si c'est possible ou pas. Alors, on a cette chance incroyable et il faut essayer de prendre du recul. Voilà, c'est le seul conseil que je peux donner, c'est de prendre du recul sur ces questions-là pour qu'on soit le plus objectif possible.
Le truc, c'est que ça touche à l'affect, hein, le désir d'enfant. Tout
Ouais.
ça, c'est quelque chose de très intime. Et je suis d'accord avec toi, on entend souvent des gens dire, ben voilà, en France, soit on n'évolue pas, ou tu vois, à l'étranger, c'est beaucoup plus simple, il y a beaucoup plus de choses. Mais en fait, voilà, la preuve, avec tout ce que tu nous dis, c'est que la recherche médicale, elle avance extrêmement vite, parfois même plus vite que dans d'autres pays. En revanche, les décisions bioéthiques, elles sont radicalement différentes d'un pays à l'autre.
C'est ça. Et elles évoluent, on évolue toujours en France, vraiment, on les révise
Ouais.
périodiquement, ces lois, justement pour ajuster, pour mettre à jour et pour être sûr de coller au plus à l'actualité, on va dire, scientifique. Donc là-dessus, je veux vraiment le dire, on n'est pas en retard sur le côté encadrement, sur les questions qu'on se pose. On se pose beaucoup de questions et on y répond périodiquement. Après, on peut être d'accord ou pas avec le choix du Parlement, mais en tout cas, c'est une préoccupation constante, la bioéthique en France, et dessus, on est vraiment, on va dire, en avance sur l'encadrement.
Et ces révisions, elles n'interviennent pas à un délai qui est toujours de 5-10 ans, c'est
Alors,
périodique.
en théorie, la première loi de 94, on avait dit on allait la réviser dans 5 ans. Et en fait, c'est pas possible, c'est un processus trop long, donc c'est arrivé 10 ans après. Ensuite, on s'est dit non, on va le faire dans 5 ans. Puis c'est arrivé aussi très très en retard. Du coup, maintenant, on a arrêté de dire qu'on allait réviser à
Ok.
une période fixe parce que rien que pour la loi bioéthique de 2021, la dernière, ça a commencé en 2018. Ça nous a pris 3 ans. Parce
Ah
qu'on a
ouais.
lancé une consultation citoyenne où tout le monde pouvait aller sur le site dédié pour donner son avis, pour participer à des comités régionaux d'éthique. Voilà, il y a une grande phase de consultation citoyenne. Après, on a consulté énormément d'organes qui existent de manière permanente, comme le Comité consultatif national d'éthique. C'est notre organe éthique en France. On lui demande son avis. On demande son avis au Conseil d'État. Voilà, on demande l'avis à plein de personnes. Ensuite, on rédige le projet de loi initial. Bien sûr, c'est débattu, débattu, débattu. Les deux chambres du Parlement se sont pas mises d'accord, alors que normalement, c'est le but. Voilà, c'est un processus très long. Ça nous a pris 3 ans, justement, voilà, pour faire les choses bien, pour demander l'avis des gens aussi. Ça, je trouve que c'est important de le rappeler qu'on demande et qu'on analyse tout ce qui sort de ces contributions pour voir un petit peu les besoins, le désir, qu'est-ce qui clive aussi, parce que voilà, il faut garder en tête ce sur quoi les gens ne sont pas d'accord. C'est important aussi pour pas fracturer la société aussi sur ces questions-là, parce que tu l'as dit, c'est très intime et il n'est pas question de diviser pour mieux régner. C'est pas ça le
Et
but.
complètement, ouais. Merci beaucoup Estelle.
Merci à toi.
Écoute, ça fait 1h06 qu'on parle, je n'en reviens pas, j'ai l'impression que ça fait 10 minutes, mais j'ai
Moi aussi,
appris
je pensais
tellement de choses. Non mais j'ai appris tellement de choses et donc je ne doute pas que les auditeurs aussi seront ravis, mais un grand merci pour tout
Et
ça.
embryon transgénique, ça y est, je viens de me rappeler le
Ça
mot.
y est,
C'est affreux.
voilà. Je t'avais dit que ça allait arriver à la fin. Estelle, on va poursuivre, enfin on va finir avec le portrait chinois. J'ai encore quelques petites questions.
D'accord.
La première question, que dirais-tu à la Estelle d'il y a 10 ans? Alors t'en étais où il y a 10 ans?
Alors, il y a 10 ans, j'étais au début de ma thèse, on va dire peut-être deuxième ou troisième année de thèse, qui
Ok.
ne sont pas les années les plus simples, parce que
Ah, j'imagine. La tête dans le guidon.
Oui, puis surtout, tu passes la tête dans le guidon sur la même chose. C'est-à-dire, autant tes
Ouais.
études, bon voilà, tu as des matières différentes, autant là, tu vis 5 années avec un sujet. Hein, tu penses à ça tout le temps, te couchant dans le métro. Toi, tu
Oh
travailles
là
la nuit, tu prends ton carnet à idées en disant, ah, ça, c'est génial. Enfin, le lendemain, tu te réveilles en disant, c'était pas si génial,
Ah,
mais en tout cas,
c'est pas dingue.
c'est ça. Donc, je pense que je dirais à la Estelle d'il y a 10 ans, continue, ça vaut le coup.
Et d'ailleurs, est-ce que tu as déjà douté pendant cette thèse de peut-être pas avoir choisi le bon sujet, de toi, je sais pas, regretter ou...
Oui. Pas tellement en termes de passion, parce que le droit, c'est vraiment ma passion, et je me suis rendu compte aussi que l'enseignement, c'est vraiment ma passion. Jamais là-dessus. Par contre, j'ai douté, est-ce que ça allait fonctionner? C'est-à-dire que, nous, c'est extrêmement long, et en fait, si on n'arrive pas au bout du parcours, on ne peut pas sa savoir si ça va marcher. C'est-à-dire que tu fais tes 5 années en droit, tu fais tes 5 années de thèse, tu passes un premier concours pour valider ta thèse, pour être sûr qu'elle a le niveau pour rentrer dans le monde académique. Et puis ensuite, il faut trouver un poste. Il n'y en a pas beaucoup des postes voilà, de maître de conférence, alors qu'il y a énormément d'étudiants en droit et puis de thèses qui sont soutenues chaque année. Donc voilà, tu sais qu'il y a très peu de chances. Plus tu avances, plus la porte, en fait, tu réalises à quel point elle est petite. Et donc parfois, j'ai pas douté que c'était ce que je voulais faire, mais plusieurs fois, j'ai douté que ça allait être possible. Ça, oui.
C'est sûr. La question suivante, sans aucune transition donc, plutôt cantine ou lunchbox?
Cantine, cantine.
Ah
J'ai
ouais.
toujours été cantine. J'ai adoré ces moments avec mes copains à la cantine. C'était vraiment le moment où on avait
On
une grande. Je me
décompresse.
souviens de cette grande plage horaire après la cantine où on pouvait jouer, où c'était pas juste 10 minutes ou 15 minutes de récréation, mais c'est là où on rapportait nos petites figurines, les jouets du moment. Moi, c'était les pogs à l'époque. Enfin bon, c'est mes meilleurs souvenirs d'école. Je pense que c'était à la cantine et post-cantine.
Allez, moralité, vive la cantoche. Question suivante, qu'est-ce que tu as appris pendant l'exercice de ta profession et que tu n'avais pas appris pendant tes études?
Ça va être très bizarre, mais moi j'ai appris à enseigner quand je suis
Ouais.
devenue enseignante. C'est-à-dire que ça, c'est très propre à l'université, mais quand tu veux devenir professeur au collège, au lycée ou même institutrice, tu vas faire des études dédiées pour ça. Il va y avoir une part de pédagogie dedans, en tant que matière à étudier. Moi, à l'université, mes 5 années, je n'ai fait que des matières juridiques, donc je n'ai appris que la connaissance. Pareil pour ma thèse, après, c'était que de la recherche, mais je n'ai jamais appris à transmettre la connaissance.
Ah oui, on te donne tout le bagage, mais pas la façon de l'amener.
Exactement. Et souvent, on pense que quand on est très fort dans un domaine, on fera un très bon enseignant, mais en fait, ça n'a rien à voir. On peut être le meilleur
C'est
et
vrai.
ne pas réussir à capter les étudiants, leur attention. On peut ne pas réussir à expliquer les choses simplement aussi. C'est un
C'est
grand
dur de
problème.
vulgariser, hein. Ouais.
C'est ça. Et moi, j'ai vraiment appris à enseigner quand j'ai commencé, sur le tas. Donc, mes excuses à mes premiers élèves, on va dire, qui ont essuyé les plâtres. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous apprend absolument pas, l'art de parler à l'oral aussi, parce que c'est un peu comme du théâtre, hein. On est debout, voilà, dans notre salle, dans notre amphi, il faut tenir 50, 100, 200, 300, 400 personnes, il faut les tenir
Ouais.
pendant 3 heures.
Et
Et
quand on dit que la
c'est...
capacité de concentration d'un humain, elle est de, je ne sais plus, X minutes avec X minutes de pause derrière, enfin,
Oui.
il faut aussi jouer avec ça.
Ah bah
Voilà, sans cesse renouveler un peu la flamme pour que
c'est
on
ça,
réengage les gens,
mais
c'est
c'est ça,
dur.
tout bête, trouver les exemples les plus rigolos possibles. Toujours des
Ouais.
exemples juridiques, mais trouver les exemples les plus rigolos possibles pour à la fois les maintenir attentifs, à la fois qu'ils se souviennent de l'idée centrale que tu essayes d'expliquer, et aussi pour donner à leur cerveau une petite pause, un petit moment de rigolade, un petit moment de partage aussi avec les étudiants. Voilà, c'est aussi une époque où on est un peu plus proche quand même de nos
Complètement.
étudiants, où c'est pas cette espèce de distance énorme, c'est plus exactement comme ça. Donc voilà, c'est aussi ce travail-là, la transmission. Et ça, malheureusement, ça s'apprend sur le tas.
Tu sais, j'ai un exemple à ce sujet-là, ça me fait penser à ça. On a un médecin qui était venu nous faire cours à l'école d'infirmière et qui nous disait que, alors je vais vulgariser, mais en gros, dans le cadre de l'insertion d'un cathéter très particulier qu'on met au niveau d'un gros vaisseau à côté du cœur, si on loupe l'insertion de ce cathéter et qu'on fait un pneumothorax, c'est que du coup de l'air rentre dans la
Ouais.
plèvre, on ne doit absolument pas tenter la même manœuvre de l'autre côté, puisque si on fait un deuxième pneumothorax sur l'autre poumon, il n'y a plus de poumon fonctionnel. En gros, voilà l'histoire. Donc on pourrait juste dire les choses comme ça, et ce médecin a pris un étudiant, alors je sais plus, ça fait longtemps, ça fait 15 ans cette histoire, mais il a pris un étudiant pour dire, allez-y, faites comme si vous faisiez le geste. Et là, il nous regarde et il nous dit, et voilà, si le médecin se dirige de l'autre côté du patient pour retenter le même geste de l'autre côté, jetez-vous sur lui. Et il a mis l'étudiant au sol pour dire, genre, condamnez ce chirurgien, allongez-le par terre, il ne doit pas reposer d'autres cathéters de l'autre côté, sinon le patient risque de décéder.
Ah bah il s'en
Et
souviendra toute sa vie, je pense, l'étudiant.
alors, et ben l'étudiant, oui. Et moi, tu vois, j'en reparle encore 15 ans après, ça m'a, j'allais
Ouais.
dire traumatisé, pas du tout, parce que l'exemple était parfait, mais je n'ai jamais oublié cette anecdote.
Ah oui, ça marque les esprits, c'est trouver ça, c'est peut-être utiliser les nouveaux supports. Enfin,
Ouais.
moi, à l'époque où j'étais étudiante, s'il y avait un rétroprojecteur pour projeter le plan de cours, c'était déjà bien,
C'était déjà pas
hein,
mal.
c'est déjà fantastique, hein, vraiment. Hein, c'est voilà, trouver des petites présentations PowerPoint parfois, c'est faire
Ouais.
des quiz avec les étudiants. Moi, parfois, pour certains programmes, je fais des quiz de révision, des quiz un peu
Super.
rigolos comme ça, tu vois, genre pour t'auto-évaluer et savoir où t'en es, mais d'une manière moins rigide que le contrôle continu. Là, je leur dis, c'est pas noté, vous faites ça comme vous voulez, vous le faites 10 fois si vous voulez. Trouver des petites techniques comme ça, même avec des outils qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'utiliser. Voilà, il faut se renouveler, on
C'est
va dire.
ça. Mais pour marquer les esprits, ouais, il n'y a pas d'autre secret, hein, c'est sûr.
Oui.
La question suivante, la chanson qui te booste quand tu as un coup de mou.
Là, c'est sûr, c'est Another One Bite the Dust de Queen.
Ah,
Ça, c'est à chaque fois que j'ai la flemme de faire le ménage, je la mets à fond dans tout l'appart. Désolée, mes voisins.
J'époussette la poussière.
Voilà, et c'est ça, et ça me met de bonne humeur. Voilà, c'est ça ou Baby Shark, parce que je sais pas, après, je la trouve rigolote.
Pas Baby Shark, par contre, une fois qu'elle rentre dans la tête, elle n'en ressort plus. Ça, c'est
Oui.
quand même le problème de cette chanson, hein.
C'est le problème. Mais
Ah,
c'est le
c'est comme
problème de
le
toutes
petit
les
bonhomme en
chansons
mousse.
pour enfants.
Oui, c'est vrai. La question suivante, ton meilleur fou rire au travail. Ou en cours, tu vois, on peut étendre.
Comme pour ma thèse, je faisais des choses en droit de la famille. Il y avait à un moment toute une polémique à l'époque sur les sites de rencontres adultères. Donc vraiment où tu cherches un amant ou une maîtresse quand tu es marié et tu veux qu'il soit marié aussi. Voilà, il y a eu toute une affaire il y a quelques années là-dessus.
Ah oui, donc des sites de rencontres vraiment
Oui.
dédiés à ce, voilà,
C'est ça,
à ce
dédié
sujet-là.
aux personnes mariées. Et
Très
du
bien.
coup, je devais écrire quelque chose dessus. Et bah, bien sûr, je cherche. Et du coup, pour me rendre compte, je vais sur le site. Je suis à la bibliothèque hein, de l'université. Hein, je suis à la bibliothèque. Je vais sur ce site de rencontres adultères pour voir comment il est fait, pour vérifier le nom de la compagnie, parce que je voulais être précise aussi dans mon article. Et j'ai ma meilleure amie en face de moi. Et tout d'un coup, elle me regarde. Et je vois qu'il y a un souci, mais elle me regarde. Genre, bouge pas, bouge pas. Ne bouge pas, ne bouge pas. Donc je bouge pas. Et en fait, elle me raconte après qu'un professeur, un grand professeur de l'université passe, bug devant mon écran, mais vraiment,
Aïe,
elle le
aïe,
voit
aïe, aïe.
hésiter, genre je dois dire quelque chose, je dois pas dire
Qu'est-ce qu'elle
quelque chose,
fait?
repartir rouge comme une tomate. Et après, on a éclaté de rire dans la bibliothèque, en disant
Ah,
qu'est-ce qu'il
c'est
doit penser de
génial.
moi? Et elle voulait pas que je me retourne pour pas qu'il voit mon visage, en fait,
Ouais.
parce qu'il passait vraiment derrière moi comme ça. Et donc, elle s'est dit, voilà, ne te retourne pas, on sait jamais.
Ah, non, mais je peux
Maintenant,
tout t'expliquer, hein.
non, mais du coup, après, elle me disait, viens avec des lunettes de soleil quand tu fais ça, ou au mieux, fais-le chez toi, voilà.
Ah, c'est génial.
C'était une chose. Et vraiment, au travail, il y avait il y avait une année vraiment avec des étudiants que ça s'était très très bien passé, ils étaient adorables. Et ils m'ont fait la surprise de revenir dans un de mes cours. Donc je donnais cours. Ils sont revenus dans un de mes cours à deux. Et en fait, pendant 15 minutes, elles ont fait mon procès humoristique en disant, parce qu'elles aimaient bien le droit pénal, donc c'était là, vous comparaissez devant nous pour telle et telle chose ridicule, par exemple, vous buvez trop de Coca-Cola, madame, vous comparaissez devant nous pour tout un tas de choses qui permettent de m'identifier quand on me connaît bien, trop de Coca, une petite pause clope, hein, voilà, des choses comme ça. Et
Vous
elles ont
avez
fait
une
mon.
tache sur votre chemisier le lundi matin, c'était pas génial.
C'est ça. Et elles ont fait mon procès voilà, pendant 10-15 minutes de façon très, très rigolote. Et puis à la fin, je suis repartie avec des chocolats et un petit cadeau. Donc
Oh,
c'est
c'est
à chaque fois qu'elles sortaient
adorable.
quelque chose, je dis, mais vous me connaissez si bien en fait. J'ai beaucoup rigolé à ce moment-là. Et mes étudiants aussi, du coup.
C'est adorable.
Ça, c'était
C'est
assez drôle.
trop
Mais
mignon
j'ai
de faire ça.
souvent eu de très gentils étudiants.
Oh, vas-y donc. Et la dernière question, un titre de film qui résume ta carrière.
Je dirais Back to the Future, parce que c'est vraiment l'idée de voir tout ce qui va arriver
C'est vrai.
avant que ça n'arrive, en tout cas avant que ça n'arrive dans le domaine légal. Donc ce serait ça, je pense. En plus, j'aime bien le film.
Oui, c'est ça.
La
J'espère que t'as la même
science-fiction, c'est mon
voiture.
domaine préféré. Non, mais ouais, ça serait
Malheureusement.
ça. Back to the Future, retour vers le futur.
Génial. Un grand merci, Estelle.
Ben, un grand merci à toi, vraiment. C'était un vrai plaisir de partager mon expérience à moitié médicale sur ton podcast.
Ouais, dis donc à moitié médicale, mais quel parcours. Et puis, merci et bravo d'avoir si bien vulgarisé aussi.
Merci, j'espère que c'était clair.
Ah mais j'en suis certaine parce que c'est un domaine qui est très technique et ben merci beaucoup pour ton temps et d'avoir fait ça aussi bien.
Merci à toi.
Bonne continuation Estelle, à bientôt!
Moi aussi, à bientôt.
Je ne sais pas pour vous mais je n'ai pas vu passer le temps auprès d'Estelle. Comme nous l'évoquions en fin d'épisode, la PMA questionne beaucoup d'un point de vue émotionnel, éthique et intime. Et j'espère que le regard professionnel d'Estelle vous a permis d'appréhender au mieux ces questionnements de société. Je vous souhaite une très belle année 2023 avec encore de nombreux portraits et partages d'expériences à vous présenter au fil de ces prochains mois. À très bientôt pour un nouvel épisode.